Radio Okapi.
Okapi service avec Marcel Ngombombala. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Le cancer chez l'enfant, facteur de risque et prise en charge médicale. Nous en parlons dans ce numéro avec nos deux invités, professeur Anguille René. Bonjour professeur qui est avec nous dans ce studio.
Bonjour, bonjour cher frère, bonjour cher ami, heureux de vous revoir.
Voilà, vous êtes pédiatre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons également dans ce studio Dr Karim Hassani, pédiatre spécialisé dans la prise en charge des cancers aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il est oncopédiatre. Bonjour docteur Karim Hassani.
Oui, bonjour monsieur Marcel.
Voilà, merci d'avoir merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Un deuxième sujet après le flash d'info de 11h heure de Kinshasa, on va parler de la vente aux enchères de blocs pétroliers en RDC. Que faut-il faire pour que cela soit profitable aux communautés locales? Baudouin Koutouk, écologiste, et Guy Kadjimba, coordonnateur du groupe de travail climat Red Plus, seront nos deux invités pour ce deuxième sujet. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Jusenciala est à la technique, Itatima Poukou réalise et coordonne ce numéro présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Voilà, c'est parti pour le magazine Okapi Service de ce jour avec ses premiers sujets, les cancers chez l'enfant, facteurs de risque et prise en charge médicale dans les pays à revenus élevés où les services complets sont généralement accessibles. Plus de 80% d'enfants atteints d'un cancer guérissent. Par contre, dans les pays à revenus faibles comme la RDC, moins de 30% d'enfants guérissent, signale l'Organisation mondiale de la santé en met son sigle. Seuls 29% des pays à revenus faibles indiquent que des médicaments anticancéreux sont largement disponibles pour la population, contre 96% des pays à revenus élevés selon la même source. Alors, quelles sont les causes du cancer en pédiatrie? Comment les prévenir et comment s'est fait la prise en charge médicale du cancer chez l'enfant en RDC? Je le dis, on en parle avec nos deux invités. Je rappelle le numéro des contacts si vous êtes intéressé. Composez les 081 890 63 94 ou encore les 09 706 63 94. Voilà, je me tourne d'abord vers le docteur, le professeur Guillaume René qui est pédiatre. Alors, les cancers chez l'enfant, c'est vrai qu'on parle souvent du cancer chez les adultes, mais les cancers chez l'enfant existent aussi. Alors, quelles sont les particularités d'un cancer chez l'enfant, docteur, professeur Guillaume René?
Bien, merci cher ami pour la question. Et d'emblée, je dois dire que le cancer existe bel et bien chez l'enfant, parce que beaucoup de gens imaginent que le cancer, c'est pour les adultes. Pourtant, chez les enfants, nous avons également des cancers.
Parce que bien souvent, lorsqu'on parle d'une personne qui est décédée, on dit qu'il est décédé d'un cancer, mais rarement on dit qu'un enfant est décédé d'un cancer. C'est rare dans le langage courant.
Ben, je pense bien que c'est une question d'information.
Ah, d'accord.
Et c'est pour cela, justement, que nous organisons ce genre d'émission, pour dire aux amis que le cancer de l'enfant existe. Et même dans la prime jeunesse, ces cancers existent. Le problème, c'est qu'il faut les reconnaître. Le cancer de l'enfant a une particularité. D'abord, l'enfant, il n'est pas possible de prévenir le cancer de l'enfant. Parce que ce sont des cancers qui se forment à partir du tissu embryonnaire. Et donc, ce sont des cancers que nous constatons. Voilà. Et c'est pourquoi nous parlerons, par exemple, des cancers comme le rétinoblastome. Rétinoblastome, c'est le cancer de l'œil. C'est ce cancer qui se forme à partir des cellules embryonnaires de la rétine. Le cancer du rein, qu'on appelle le néphroblastome. Le cancer du foie, qu'on appelle l'hépatoblastome, etc. Et donc, ces cancers existent bel et bien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ces cancers se greffant sur des êtres en développement, ce sont des cancers qui sont extrêmement agressifs et qui donc vont se développer rapidement. Ce qui fait que nous avons le devoir de prévenir la population et de faire même une sensibilisation pour leur dire que ces cancers existent et qu'il y a des signes qui peuvent montrer que l'enfant est atteint d'un cancer. C'est vraiment notre objectif d'ailleurs, c'est pourquoi nous venons ici à Radio Okapi et nous irons ailleurs, hein. Nous irons dans les communautés, nous irons un peu partout pour leur dire attention, lorsque vous voyez tel symptôme, c'est un cancer. Alors, comme Dieu est juste, ce sont des cancers qui sont très agressifs. Mais lorsqu'on les prend à temps, lorsqu'on les diagnostique à temps, ce sont des cancers qui sont guérissables presque à 100%.
Allez, le plus important, c'est de savoir les diagnostiquer à temps. Mais alors, vous avez dit, ça c'est très important, c'est des cancers agressifs. Pourquoi vous insistez sur le mot agressif? Chez l'adulte, c'est pas agressif, le cancer se développe de manière progressive.
Ah, tout à fait. Lorsque vous avez votre cancer de la prostate, vous pouvez vivre avec pendant un temps. Mais lorsque vous avez un cancer de l'œil, ben rapidement, vous allez voir que l'œil va sortir de l'orbite. Et en ce moment-là, c'est fini parce qu'il y aura des métastases et finalement l'enfant décède. Ce qui fait que le fait même que cet enfant croît, hein, c'est un personnage en pleine croissance, et ben le cancer va croître également rapidement. Donc ce sont des cancers extrêmement agressifs que nous devons plutôt diagnostiquer de bonne heure pour que nous puissions avoir la chance de les guérir.
Donc vous avez dit il y a des chances, plutôt il y a des signes qui apparaissent un peu plus tôt et il y a moyen aussitôt que ces signes apparaissent, on peut bien prendre en charge et puis il y a beaucoup de chances de guérison. Alors on va se tourner avec Dr Karim Hassani. Lui, il est oncopédiatre, c'est-à-dire que vous vous occupez spécialement du cancer des enfants, c'est ça?
Exact.
Ah, super. C'est une spécialité rare quand même, hein?
En effet, c'est une spécialité, c'est une surspécialité, parce qu'il faut d'abord être pédiatre, oui. Et par la suite faire une formation spécifique pour la prise en charge du cancer de l'enfant. Alors, pourquoi est-ce que cette spécialité est un peu particulière? Parce que un cancérologue adulte n'a pas l'habitude de voir les cancers de l'enfant, donc ne peut pas prendre en charge les cancers de l'enfant. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Nguyulu, les types de cancers que développent les enfants sont complètement différents des types de cancers que développent les adultes. Les adultes développent les cancers du sein, les cancers de prostate, les cancers du poumon, parce qu'il y a peut-être eu, ils ont pris de l'alcool pendant longtemps, ou ils ont fumé de la cigarette, etc. Donc il y a des facteurs de risque. Mais chez l'enfant, ce n'est pas comme ça. Donc, tout à l'heure, le professeur Nguyulu a expliqué, ce sont des cancers qui viennent du tissu embryonnaire, et d'ailleurs, ils se terminent souvent par le terme blastome, pour dire qu'ils sont vraiment du tissu embryonnaire. Et les exemples ont été cités, rétinoblastome, néphroblastome, neuroblastome, hépatoblastome, donc ce sont des types de cancers complètement différents et voilà pourquoi c'est important d'avoir de pédiatres qui soient spécialisés spécifiquement dans ce type de cancer spécifique à l'enfant, d'où oncopédiatre.
Alors vous avez dit, docteur Anguille l'a également dit, c'est déjà au stade embryonnaire, donc c'est pas évident de prévenir ces types de cancers. Alors, ce sont les signes qui vont aider à savoir qu'il s'agit d'un cancer. Quels sont ces signes? Prenons par exemple pour les cas du rétinoblastome.
Exactement, c'est-à-dire que ce sont des cancers qui se développent à partir du tissu embryonnaire, oui. Qui ne sont pas accessibles à la prévention, mais heureusement qu'ils sont accessibles au diagnostic précoce. Alors quand nous disons diagnostic précoce, ça signifie diagnostic des signes du début de la maladie. parce que parfois certains patients ne comprennent pas très bien ça signifie quoi précoce. Donc diagnostic précoce, ça signifie diagnostic au début de signes, donc au tout début de la maladie, les signes du début. Alors pour donner quelques exemples, en commençant effectivement par le cancer de l'œil que nous appelons dans le jargon médical le rétinoblastome, si vous voyez une tache blanche au milieu de l'œil, qui apparaît chez un tout petit, attention, ça peut être un rétinoblastome. Ou alors, un œil qui louche. Alors, l'œil qui louche, ça signifie, normalement, les deux yeux regardent tous dans la même direction. Alors, s'il y a un œil qui regarde à côté, alors que l'autre est tout droit, ça signifie que l'œil louche. Alors, ça peut déjà être un signe du rétinoblastome. Alors, la réaction des parents, lorsqu'ils voient ça, doit être immédiate, rapide, pour consulter rapidement.
Ça peut se manifester déjà dès la naissance ou bien à partir de 3 mois, 4 mois. Et s'il y a une période précise, déjà dès la naissance, on peut présenter ces taches blanches?
C'est rare que ça se présente tout de suite dès la naissance, mais ça peut arriver. Mais en général, c'est souvent l'enfant avant l'âge de 5 ans.
De 5 ans, d'accord.
Oui, avant l'âge de 5 ans. Souvent, donc, c'est l'âge préscolaire. L'enfant, 1 an, 2 ans, il présente déjà ces symptômes-là. Même parfois moins d'1 an, il présente déjà ces symptômes-là. Alors là, ça nécessite de rapidement aller dans le centre de santé le plus proche ou alors d'aller voir un ophtalmologiste qui va obligatoirement faire ce que les ophtalmologistes appellent un fond d'œil, c'est-à-dire il va véritablement regarder à l'intérieur de l'œil pour être sûr que cette tache blanche est un rétinoblastome et à ce moment-là, la prise en charge va démarrer.
Alors là maintenant pour l'oncopédiatre que vous êtes, comment ça se passe? Il y a cette tache blanche qui apparaît dans le fond de l'œil. Il y a, vous avez dit, l'ophtalmologiste qui va faire son travail. Et à votre niveau, en tant qu'oncopédiatre, vous allez faire quoi lorsque c'est diagnostiqué qu'il s'agit d'un cancer? Le diagnostic d'un cancer a été fait.
Alors, dès que le diagnostic du cancer est fait, alors c'est toujours une nouvelle très perturbante pour la famille.
Oui.
La première chose pour nous, c'est de prendre en charge cette partie de l'annonce diagnostique. Parce que ce n'est pas quelque chose de banal. Hein. Vous êtes un parent et on vous dit du jour au lendemain que votre enfant a un cancer. Très souvent, les parents ont l'habitude de ne pas croire au diagnostic.
Surtout qu'il s'agit d'un enfant.
Voilà, surtout qu'il s'agit d'un enfant.
Oui.
Surtout que souvent, ils n'ont jamais entendu parler de cancer chez l'enfant.
Exactement.
Donc la prise en charge de l'annonce diagnostique, c'est très important. Ça peut nous prendre parfois 1 heure de temps pour discuter avec... en général, on aime bien discuter avec les deux parents, papa et maman, et on leur explique effectivement que l'enfant a un cancer. Alors, dès que l'annonce diagnostique est passée, la famille digère l'information. Tout de suite, nous commençons la prise en charge. Et cette prise en charge, nous la faisons de façon pluridisciplinaire. Alors, je sais que ce sont des mots un peu compliqués, mais en fait, pluridisciplinaire, ça signifie tout simplement que nous avons plusieurs spécialistes. Nous nous asseyons autour d'une table et on ouvre le dossier du malade et chaque spécialiste donne son point de vue, l'objectif étant de trouver le meilleur soin possible pour cet enfant.
De là, nous avons parlé du rétinoblastome qui est un cancer au niveau de l'œil. Il y a également un autre cancer dont que le docteur professeur Nguyen avait cité, c'est le néphroblastome au niveau du rein. On va y revenir. Alors, avant d'accorder la parole aux éditeurs qui sont déjà en ligne, il y a Charles qui appelle de Lubumbashi, Piro qui appelle également de la même ville. Alors, dites-nous, professeur Nguyen, pourquoi vous vous intéressez, vous êtes pédiatre, mais pourquoi vous vous intéressez vraiment à sensibiliser à la communauté, la population par rapport au cancer chez l'enfant?
Ben, ceci est tellement important de sensibiliser la population parce que chez nous, vous savez, lorsque quelque chose d'anormal apparaît chez un enfant, c'est toujours sorcier. Ok? Et donc, nous voulons enlever cette idée-là de la tête des parents. Hein, qu'il existe bel et bien le cancer chez l'enfant également. Parce que vraiment, plein de gens, comme le docteur Karim l'a dit, qui n'ont jamais appris qu'un enfant peut avoir un cancer. Et donc, nous devons les sensibiliser. Nous devons dire aux parents, ou disons au monde, qu'il existe aussi des cancers chez l'enfant, mais des cancers assez particuliers. Et donc, comme il a dit, pour le cancer de l'œil, lorsque vous avez une tache blanchâtre au milieu de l'œil, il faut vous en inquiéter. Il faut vous dire, eh bien, écoutez, c'est quoi ça? Hein? Vous n'avez pas dit, oh, bah, écoutez, non, bah, ça va disparaître. Non, 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 il faut voir le médecin. Vous voyez un enfant qui a un abdomen ballonné, un ventre ballonné. Brusquement, le nombril sort, parce que le nombril est normalement déplissé. Le nombril sort, le ventre est ballonné. Mais vous devez vous en inquiéter. Qu'est-ce qui se passe dans le ventre de cet enfant? Allez voir le médecin. Et puis, bon, nous avons des examens cliniques d'abord. Nous avons les échographies et tout un tas de choses que nous devons faire pour poser le diagnostic. Et comme vous l'avez si souligné, l'oncologie pédiatrique n'est pas de la médecine générale. N'est pas de la médecine générale, c'est une médecine spéciale. Ça ne se fait pas dans un cabinet médical ou dans un hôpital, disons, ordinaire. Ça se fait dans un centre spécialisé. Lorsque vous suspectez un cancer, envoyez chez l'oncologue pédiatre.
Parce que nous avons deux centres spécialisés ici, qui s'occupent juste des enfants.
Ici, dans la République démocratique du Congo, à ce que je sache, pour les enfants, à ce que je sache, je n'exagère pas, c'est sans prétention, mais je pense bien qu'il n'y a que deux centres qui sont spécialisés dans le traitement du cancer de l'enfant. Il y a le centre qui se trouve aux cliniques universitaires, dont votre serviteur est le dirigeant, et puis il y a un centre qui se trouve à l'université Lubumbashi, aux cliniques d'université Lubumbashi. Bon, ailleurs, bon, ils peuvent peut-être traiter selon certaines directives, mais les centres qui sont spécialisés, qui prennent en charge de façon connue et par le monde, c'est deux centres donc de Kinshasa et de Lubumbashi.
Voilà, on revient à vous, docteur professeur Nguyulu René, également docteur Karim Hassani. Si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous parlons du cancer chez l'enfant, facteur de risque et prise en charge médicale. Vous êtes intéressé, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 081-890-63-94 ou encore au 09-756-63-94.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Charles nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Charles.
Bonjour Marcel, bonjour et aussi aux invités.
Voilà, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur les cancers chez l'enfant?
Je tiens d'abord à remercier la radio Capi pour les choix judicieux, parce que ici à Lubumbashi, vraiment, après les débuts congolais, c'est le cancer qui est le mieux chanté. À gauche, à droite, c'est toujours cancer, cancer. Alors, on n'arrive même pas à dormir. Maintenant, je profite de cette opportunité pour demander aux docteurs qui sont là. D'abord, s'il faut commencer par la définition, comment on peut définir c'est quoi les cancers? Et puis, nous voulons aussi savoir, est-ce qu'il y a les différentes phases de cette maladie-là, appelée cancer? Parce que tout à l'heure, il a dit la phase embryonnaire, on ne sait pas s'il y aura encore la phase aiguë ou extrême. On ne sait pas les processus de cette maladie-là. Et pour terminer, M. Marcel, il y a les suivis-là prénatales que nos mamans enceintes font souvent dans les trois trimestres de la grossesse. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévenir cette maladie-là à partir de ces suivis-là avant même l'accouchement ou bien avant même de mettre l'enfant au monde? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de prévenir déjà cette maladie-là? Voilà un peu ce que nous avons voulu demander. Merci beaucoup et bonne journée.
Merci Charles d'avoir appelé de Lubumbashi. On reste dans cette même ville pour accorder la parole à Pierrot. Bonjour Pierrot.
Bonjour, merci. Bonjour à l'invité, c'est Pierrot Mpagnan. Personnellement, je voulais d'abord lui poser quelques questions concernant les programmes. S'il existe un programme national de lutte contre le cancer au niveau du ministère de la Santé, si ça existe, comment ils parviennent à planifier le travail et comment ils font pour que le taux de survie de cancer juvénile puisse diminuer? C'est concernant s'il existe un programme national de lutte contre le cancer juvénile. Ça, c'est la première préoccupation que je voulais poser à notre invité. La deuxième préoccupation concernait parce que il est basé, mais je ne sais pas si c'est dans le privé ou c'est dans le public. Si c'est s'il est dans le public, il peut nous classifier et nous classer le pourcentage selon les études qu'ils ont déjà menées ici dans le pays. Ils nous classent les différents cancers qui existent. Et le pourcentage pour que nous puissions aussi avoir l'idée de la forme qui est le plus fréquentée, le plus on peut dire quoi, le plus vu au pays, et celui qui est plus qui tue plus.
Non mais Pierrot, s'il vous plaît Pierrot, on doit bien se comprendre. Hein, aujourd'hui notre émission n'est pas que du cancer chez l'enfant. Donc si vous posez des questions, il faut que ce soit des questions par rapport, si vous parlez du classement, de la classification par exemple de ces cancers, on va pas de la classification chez l'enfant, on veut pas faire de l'amalgame. On n'est que chez l'enfant.
Oui, c'est la classification chez les enfants.
D'accord, oui, on est d'accord. On est d'accord.
Les enfants, oui. Oui. Pour savoir, je pense qu'il a déjà cité de l'érétinoblastome.
Oui.
Alors, quand il a déjà cité, c'est-à-dire, selon ce que nous pouvons entendre, c'est-à-dire, c'est le type qui est plus fréquent et visible. Et c'est là que nous avons besoin qu'il essaye de nous citer les pourcentages et nous énumérer d'autres qui peuvent être là. Ça, c'est la deuxième question. Je voulais aller à la troisième question pour être un peu bref. La troisième question était de savoir comment, dans une zone où on peut dire, dans une zone minière, où on pense que les taux de souffrir cette maladie est un peu élevé, d'avoir plutôt, d'attraper cette maladie est élevé. Comment faire ou comment aider à ces enfants qui sont dans des sites minières de ne pas l'avoir? Ça, c'est la troisième. Et je chute avec la dernière question, toujours dans cette même sens-là. Dans ce même sens, c'est de savoir qu'il essaie de nous préciser en pédiatrie pourquoi on parle toujours que les enfants qui ont des cancers, leur vie est toujours entre, les pronostics est toujours sombre et ils sont plus isolés de tous les enfants, même quand il faut le scolariser, quand il faut le prendre en considération, on prend celui-ci comme c'est quelqu'un qui n'a plus de la valeur. Je dis et je vous remercie.
Merci Pierrot d'avoir appelé de Bombashi. Docteur Karim Hassani, d'abord rappelez c'est quoi les cancers. Ça c'est Charles qui a cherché à savoir et puis il a dit lorsque vous avez parlé du stade embryonnaire, est-ce que en dehors du stade embryonnaire, si j'ai bien compris, il y a encore d'autres stades qui peuvent faire que le cancer puisse se développer, donc chez l'enfant. Et puis, il est revenu sur la prévention. Donc, vous estimez vraiment que on ne peut pas prévenir le cancer chez l'enfant?
Alors, merci beaucoup. Tout d'abord, le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Un enfant qui a le cancer peut bien être scolarisé, peut bien jouer avec les autres enfants, vivre dans un même toit que les autres enfants sans pour autant contaminer les autres enfants. Donc ça, c'est très important. C'est une discrimination qui est vraiment très perturbante pour ces enfants-là qui souffrent déjà beaucoup, que de pouvoir penser qu'ils vont transmettre la maladie aux autres enfants ou à leur entourage. Donc ça, c'est très important de le dire. Alors effectivement, le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est une maladie comme toutes les autres. Mais à la différence, c'est une maladie qui dure un peu longtemps. Ce n'est pas comme peut-être la malaria qui, en 2-3 jours, si on s'est bien diagnostiqué, bien traité, on est debout et on commence à marcher. Non, c'est une maladie comme toutes les autres. Alors cette maladie se caractérise, comme l'a dit le professeur Nguyulu dans l'introduction, par son agressivité chez l'enfant. C'est très agressif et il faut donc le prendre en charge tôt. Et c'est pour ça que nous appelons les parents à savoir les reconnaître. Parce que plus tôt les enfants, donc le cancer est reconnu chez l'enfant, plus court le traitement est, moins coûteux le traitement est, avec moins de séquelles et avec plus de chances de guérison. Le professeur Nguyen a parlé de jusqu'à 100% de guérison. Il y a très peu de cancers adultes où on peut dire qu'on peut atteindre 100% de guérison. Donc ça, c'est une particularité pour laquelle nous, nous appelons toujours et nous sensibilisons toujours, même les décideurs, de pouvoir bien s'appuyer sur le cancer de l'enfant pour montrer que c'est possible de guérir le cancer, même en RDC, avec le peu de moyens que nous avons. Alors, autre chose, c'est que la prévention dans les zones minières, etc. Donc, tout de suite, on a dit que le cancer de l'enfant, c'est vrai, il se développe à partir du tissu embryonnaire, mais cela ne signifie pas qu'il se développe dans le ventre de la mère. Les tissus embryonnaires, nous tous, nous l'avons à la naissance, et au fur et à mesure que l'enfant est en train de grandir, au fur et à mesure que ces tissus... Donc, l'enfant, par exemple, à la naissance, ne voit pas très bien. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, commence à mieux voir. Donc c'est du tissu embryonnaire qui est en train de se maturer, de devenir de plus en plus un tissu qui va permettre à cet adulte futur de pouvoir être un homme correct, alors un homme complet. Alors à ce moment-là, lors de cette maturation, il y a quelque chose qui peut se passer, et donc c'est pour ça que beaucoup de ces cancers, beaucoup de ces blastomes, de ces rétinoblastomes, etc., surviennent très souvent chez les enfants tout petits, donc avant l'âge de 5 ans, et c'est pour ça que c'est, on a dit tissu embryonnaire, mais il faut faire la différence, ça ne signifie pas que ces cancers surviennent dans le ventre de leur maman.
Alors, une question, j'ai cru comprendre ça dans ces sens-là, est-ce que il y a des facteurs de risque d'un cancer chez l'enfant qui sont liés peut-être au comportement de la maman pendant la grossesse? C'est-à-dire, soit la maman prend certains médicaments, soit la maman prend, je ne sais pas, c'est certains aliments. J'ai une façon de se comporter qui peut avoir une incidence chez l'enfant et puis amener un cancer.
Certes, oui, exactement. Oui. Donc si une maman est exposée à des produits de chimiothérapie, à des rayonnements, etc., oui. Mais ce n'est pas du tout ce que nous retrouvons souvent.
Ah, d'accord.
Ce que nous retrouvons souvent, et d'ailleurs c'est très faux, il y a des parents qui pensent que lorsque le papa n'avait pas fini de payer la dot et que l'enfant développe un cancer, c'est parce que voilà, c'est le fait qu'il n'a pas fini de payer la dot qui a entraîné le cancer chez l'enfant. Donc c'est juste pour dire que non, si je peux résumer, il existe très peu, un pourcentage vraiment très minime où on trouve chez l'enfant quelque chose qui a véritablement entraîné le cancer.
Voilà,
la plupart des enfants développent le cancer, c'est, je peux dire, la faute à la malchance. Donc, c'est le cancer qui arrive et ça arrive. C'est ça.
Voilà. D'accord. Alors, professeur René Anguillo, il avait cette question, il y a un programme de lutte contre le cancer chez les enfants. Il a également cherché que vous reveniez sur la classification, sur les différents types de cancers qu'on retrouve chez l'enfant. Et puis, pour la question sur la zone minière, je pense que Dr Karim vient d'en parler. Et même la question sur comment il faut isoler les enfants, vous avez également évoqué. Ça, c'est pas une maladie contagieuse. Docteur Rapos, à René Guil.
Oui, merci, cher ami. En ce qui concerne donc le programme de lutte contre le cancer, il existe au ministère de la Santé un programme de la lutte contre le cancer. C'est un programme, disons, qui se met en place, qui n'a pas encore tout à fait les moyens, mais nous espérons que dans un proche avenir, ce programme va nous dépanner. Parce qu'il faut dire que le traitement du cancer est un traitement extrêmement lourd. Et souvent, lorsque nous sommes en présence d'un cancer, le souci, c'est toujours le souci d'argent. Hein. Et donc, un programme serait le bienvenu. Il est en train de se confectionner. Il existe même un président, le professeur Leboise, qui est le président de la Ligue pour la lutte contre le cancer. Et certainement que pour le cancer de l'enfant, il y aura, disons, la lutte sera incorporé dans ce programme. Il n'est pas tout à fait en place, mais il se dessine, il existe, il n'a pas encore des moyens, mais en tout cas, les gens sont en train de se battre pour que ça puisse être effectif. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, oui, effectivement, chez les enfants, parlons de nous autres, nous, qui nous occupons de ces enfants. Voulant classer les cancers, nous dirons que je suis un vieux médecin, hein, donc j'ai vu passer les générations en génération. Lorsque j'ai commencé ma spécialisation, le cancer le plus fréquent aux cliniques universitaires, c'était les leucémies. La leucémie, c'est un cancer, disons, du sang. Oui. Ouais. Leucémie lymphoblastique aiguë chez les enfants. Après un certain moment, nous avons vu un renversement de la situation. La leucémie est revenue presque en dernière place. Il y avait l'apparition d'une tumeur spéciale qu'on appelle le lymphome de Burkitt. Lymphome de Burkitt, c'est une maladie qui a été, si vous voulez, diagnostiquée pour la première fois par Monsieur Denis Burkitt. Denis Burkitt, en 1950, s'est étalé à Kampala, en Ouganda. C'est un chirurgien anglais. Il est allé étudier l'éléphantiasis. L'éléphantiasis, ce sont les gros pieds là, qui est dû, disons, à la filariose. Mais quand il arrive là-bas, il constate que plein d'enfants avaient des tuméfactions au niveau des joues, des maxillaires. Alors, il a fait son étude, il a constaté, et ben, il a fait son étude, et il a constaté que cette affaire-là, c'était un cancer. Et d'ailleurs, enfin pour la petite histoire, je m'excuse si je vais prendre un peu de temps.
Ah, allez-y.
Pour la petite histoire, Monsieur Burkitt dit, ben, je constate ça plein ici en Ouganda, peut-être qu'il y en a ailleurs. Et il a entrepris donc ce qu'il a appelé lui-même un safari tumeur. Safari, c'est-à-dire qu'il allait faire une promenade à travers l'Afrique. Et donc il est allé à travers tous ces pays qui sont tout près de l'Ouganda, jusqu'à arriver ici à Kinshasa. Ici, à Kinshasa, il est arrivé, il a trouvé notre premier pédiatre qui atterrit dans ce pays, le professeur Roger Eckels, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et donc, lui a pu rencontrer Monsieur Eckels. Eckels, en ce moment-là, c'était dans les années 61-62, et avec Monsieur Burkitt, ils ont fait le tour de Kinshasa, ils sont allés au Bandundu, ils sont allés au Bakongo, il n'y avait pas de Burkitt. Alors, je vais vous dire un peu pourquoi, enfin, ce que nous pensons pour le moment. Parce que finalement, il y a eu une émergence de ces tumeurs-là, dont la tumeur de Burkitt. Aujourd'hui, avec Carib, c'est autre chose. La tumeur, la toute première qui vient, c'est le rétinoblastome. Mais pourquoi, mon Dieu, moi, je ne sais pas. C'est une question que nous devons nous poser. Cancer de l'œil. Il y en a plein maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Bon, probablement que, il y a l'environnement qui a changé. En ce qui concerne les conditions d'apparition de leur cancer, c'est vrai que chez les enfants, là, ce sont des tumeurs embryonnaires, mais pourquoi y a-t-il apparition du cancer? Pour le moment, la cause du cancer n'est pas encore bien connue.
Et puis vous avez également cité les néphroblastomes.
Oui, il y a tout ce genre de cancer. Mais pourquoi ça apparaît? En tout cas, la cause que nous pouvons pointer du doigt comme ça n'existe pas. Mais nous savons qu'il y a des facteurs qui favorisent les cancers. Hein, il y a tout un tas de facteurs environnement, les rayonnements ionisants, tel qu'il a dit là-bas. C'est ça ce qui se passe d'ailleurs dans les zones minières.
Exactement.
Hein, parce que c'est plein de substances radioactives. Et ça peut influencer, n'est-ce pas, donc l'apparition de cancer. Hein, il y a les microbes, les virus. Parce que justement, dans la fameuse tumeur de Burkitt là-bas, on a constaté que pour que il y a apparition de la tumeur de Burkitt, il faut certaines conditions. Il faut d'abord, une malpropreté de la bouche, parce que ça se développe aux dépens des maxillaires. Donc, il faut qu'il y ait une hygiène buccale défectueuse. Secondo, il faut qu'il y ait un virus qu'on appelle le virus d'Epstein-Barr. Excusez-moi, je ne vais pas enseigner ici. Et puis, il y a la malaria et la malnutrition.
Voilà, ça c'est des facteurs
qui peuvent favoriser, disons, l'apparition. Et puis, naturellement, il y a des aberrations chromosomiques. N'allons pas entrer là-dedans.
Mais de toute façon, on a compris pour ces différents cancers. Parce qu'il faut qu'on progresse avec des auditeurs.
Absolument.
Nous avons Godé qui nous appelle de Kikwit et Orsène qui est à Lubumbashi. Godé, vous nous appelez depuis Kikwit. Bonjour, Godé.
Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Vraiment, l'émission vraiment est très impertinente. Hein. Vraiment, ici à Kikwit, c'est Godé, depuis la ville de Kikwit. Vraiment, ici à Kikwit, nous venons de vaincre donc la situation des cancers de l'œil à un enfant de 12 ans. Vraiment, on a essayé de mettre les remèdes traditionnels et le cancer de l'œil s'est aggravé. On est allé à l'hôpital général de Moussa.
Mais comment vous avez su que c'était le cancer de l'œil? Comment vous l'avez su?
Oui, puisque l'enfant souffre de l'œil, il y a une tache qui s'était figurée au coin de l'œil. On a dit que non, ça c'est pas possible, l'enfant de 12 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? On a essayé avec les remèdes traditionnels et le malade s'est aggravé encore. On est allé à l'hôpital Ndong de Moussangou, Kwaru, jusqu'alors, l'enfant des mères malades. Je vais demander à l'invité. Des pareils centres ne se trouvent pas ici, à l'intérieur des capitales. C'est simple à Kinshasa. Où est-ce qu'on peut trouver? Deuxième préoccupation. Est-ce que l'invité peut nous dire, est-ce que les cancers de l'œil d'un enfant, ça peut être héréditaire ou non? Encore une préoccupation. Est-ce que les cancers de l'œil, quand la maman est enceinte et elle prend beaucoup d'alcool et elle souffre beaucoup, ça peut entraîner l'enfant de faire entraîner cette maladie-là de cancer de l'œil? Et la troisième, pour clôturer, monsieur le journaliste, est-ce que le cancer de l'œil-là, l'enfant est en train de sillonner au bord d'un moto et il a un petit caillou qui est entré dans l'œil? Est-ce que ça peut entraîner encore les cancers de l'œil ou pas? Je vous peux vous dire, c'est Godé Guidon depuis la ville de Gécuit. Je vous prends congé.
Merci Godé d'avoir appelé depuis Gécuit. Alors Orsène, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Orsène.
Bonjour monsieur Marcel, bonjour au docteur.
On vous écoute Orsène.
Merci beaucoup monsieur Marcel d'avoir fait les choix de ce sujet. Oui. Parce que je vivais dans l'ignorance tout ce temps. Moi je ne savais pas qui. On peut trouver les cancers chez un enfant. Voilà, je viens de les découvrir aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. J'ai juste trois questions à poser au docteur. La première question était celle de savoir quelles sont les causes de ce cancer chez un enfant. Et en plus de cela, je ne sais pas si je demandais, je me rends pas savoir. Dans une année, on peut enregistrer combien de cas de cancer chez les enfants. Et en plus de cela, si je ne sais pas si cette maladie est héréditaire, si la maman, par exemple, ou le papa qui a cette maladie, on peut donner naissance à un enfant qui vient aussi avec la même maladie. Et le docteur peut nous donner les symptômes, hein, les malaises que l'enfant peut poser. Parce qu'on vit avec des enfants à la maison, l'enfant peut avoir cette maladie-là. Et nous, on attaque d'autres maladies tant qu'on ne sait pas que non, l'enfant vit avec les cancers. Alors, je ne sais pas si le docteur peut nous donner quelques malaises que l'enfant peut manifester comme ça. Ça peut nous aider d'avoir aussi l'idée sur ça. Merci.
Merci, Orsène, d'avoir appelé de Lubumbashi. Alors, dites-nous, docteur Karim, voilà, vous avez suivi Godé, hein, qui parle de cette tâche au fond de l'œil de l'enfant, mais il pense déjà à un cancer. Ça ne se passe pas comme ça, quand même.
Exactement. C'est-à-dire que lorsque on a une anomalie au niveau du corps d'un enfant, il est important de consulter les spécialistes en la matière. Alors, quand c'est au niveau de l'œil, c'est sans nul doute l'ophtalmologiste qui va poser le diagnostic. Alors, je ne sais pas par rapport à cet enfant de 12 ans, qui classiquement, ce n'est pas du tout l'âge du rétinoblastome, qui est le cancer de l'œil de l'enfant le plus fréquent. Donc ça peut peut-être être un cancer, hein, je ne sais pas, ça peut être un autre type de cancer. Donc là, il est important d'avoir la certitude diagnostique, et c'est comme ça qu'on aura un bon traitement. Et c'est comme ça, donc nous compatissons avec Godé par rapport à cet enfant, et nous espérons qu'il ira mieux, mais en tout cas, à qui quitte. À ce que nous savons, nous ne pensons pas qu'il y a un centre qui prend en charge le cancer de l'enfant de la façon la plus, enfin, internationalement reconnue. Donc, dans la mesure du possible, ici à Kinshasa, nous avons aux cliniques universitaires le service de prise en charge de cancer de l'enfant. Donc, si c'est possible, nous espérons que cet enfant peut venir et nous pouvons peut-être l'aider.
Les facteurs de risque, il a parlé de l'hérédité, il a parlé d'une femme qui prend de l'alcool et également peut-être un caillou comme ça dans le... voilà.
Alors, excusez-moi, c'est parfois des questions pièges.
Oui.
Pas plus tard que cette semaine, nous avons reçu un couple qui avait un problème. Papa et maman ne s'entendent pas. Et tout de suite, ils cherchaient à savoir si les cancers étaient héréditaires. Donc là, tout de suite, on a compris qu'il y a l'un qui voulait faire tomber la responsabilité à l'autre.
Oui.
Alors, vous voyez tout de suite que cette question de l'hérédité du cancer, lorsque une maladie sérieuse arrive à l'enfant... c'est une question qu'il faut aborder avec beaucoup de précautions pour que le public ne comprenne pas mal les choses et que ça puisse entraîner certains problèmes. Voilà. Donc, effectivement, il existe des cancers qui ont de sous-bassements génétiques. Mais la plupart des cancers de l'enfant que nous avons, ça n'a rien à voir avec le fait de l'hérédité. Parce qu'en général, très souvent ici chez nous, les enfants, dans le temps bien évidemment, les enfants qui avaient les cancers mouraient beaucoup. Ce qui fait que l'hérédité, il n'y en a pas, il y a très peu. Ailleurs, vous pouvez avoir une personne avec rétinoblastome dans les deux yeux qui survit, qui grandit, et lorsqu'il a un enfant, son enfant bénéficie d'un traitement spécial de surveillance, et on trouve le rétinoblastome chez son enfant. Alors là, c'est un rétinoblastome héréditaire. Mais chez nous, nous n'avons pas des cas comme ça qui ont grandi, qui sont grands et qui ont des enfants. Donc c'est pour ça que moi je peux dire là tout de suite, c'est qu'il faut retenir, c'est que la cause la plus fréquente n'est pas, comme l'a dit le professeur Ngioulou, on n'a pas quelque chose qu'on peut pointer du doigt pour dire que voici le coupable. Non. Il est important que les gens sachent qu'on ne peut pas prévenir les cancers de l'enfant, ça peut survenir, et quand ça survient, il faut seulement reconnaître les signes précoces. Et je remercie Arsène pour avoir posé la question de savoir quels sont ces signes.
Exactement.
Quels sont ces signes? Les parents devraient faire attention à quoi? Alors tout de suite, de façon générale, toute anomalie qui survient chez l'enfant doit faire consulter au niveau du premier centre. Et lorsque c'est par exemple au niveau de l'œil, pour parler du rétinoblastome, n'hésitez pas à aller voir un ophtalmologiste. Si vous voyez une tache blanche au niveau de l'œil, un œil qui louche, attention, ça peut être un rétinoblastome. Alors, il y a des découvertes que les mamans font et qui ne doivent pas négliger. Une maman qui donne un bain à son enfant et qui, en passant la main au niveau du ventre, constate qu'il y a une boule à l'intérieur du ventre. La constatation d'une boule à l'intérieur du ventre est une constatation sérieuse. C'est une constatation sérieuse qui doit pratiquer une consultation, une échographie par une personne qui a l'habitude de faire l'échographie chez les enfants pour pouvoir être sûr qu'il ne s'agit pas d'un cancer. Et si c'est diagnostiqué à un stade précoce, la guérison est presque assurée.
Donc, voilà, il y avait aussi cette question sur la fréquence de ces cancers. Je ne sais pas si le professeur Nguilopé a répondu à cette question. Est-ce que par rapport à votre expérience, vous avez une idée sur la fréquence de ces cancers ici en RDC chez l'enfant?
Bon, en RDC, nous n'avons pas pu faire une étude parce que Le pays est vaste. Et c'est ça notre ambition d'ailleurs, hein, c'est de pouvoir aller chercher tous ces cancers à l'intérieur du pays. Mais faut-il encore avoir un peu de moyens pour y aller? Mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous avons une centaine d'enfants qui viennent aux cliniques universitaires pour cancer par an. Nous recevons une centaine d'enfants. Et les cancers les plus fréquents sont, hein, comme je vous ai dit, le rétinoblastome, 2, le néphroblastome, 3, les maladies, les cancers qui se développent aux dépens des ganglions, que nous appelons les lymphomes. Ok? Et puis alors, nous avons la leucémie. Donc,
le cancer du sang.
Le cancer du sang. De temps en temps, nous avons le cancer du sang.
Alors, on va prendre Maître Achille Omar, qui nous appelle de Lubumbashi, et puis on va conclure avec nos deux invités, parce qu'on doit finir par rapport au traitement. Alors, Maître Achille Omar, vous nous appelez de Lubumbashi. Bonjour, Maître. S'il vous plaît, Maître, vous voulez bien fermer votre radio, vous éloigner de votre radio.
Oui, c'est fait.
Bah, on vous écoute maintenant, allez-y.
Ça va, merci de m'avoir associé dans ce débat. Par rapport au diagnostic du cancer pédiatrique, je voudrais savoir, je profite aussi de l'occasion de les inviter sur le plateau. Donc, qu'il s'agit d'un tumeur, n'est-ce pas, un cancer forme tumeur, la clinique peut aider pour l'échographie à identifier ou diagnostiquer précisément le cancer. Mais là, lorsqu'il s'agit bien d'une leucémie en dehors de la clinique, et qui ne peut pas rassurer du tout le cancer dans la précision du diagnostic, quel est l'élément paraclinique qui est mis en évidence pour confirmer le diagnostic de cancer pédiatrique, comme les études sont là? Je profite, c'est tout ce que j'avais comme question à poser.
Voilà, merci Maître Achille. On va prendre le tout dernier, en tout cas au niveau de la réalisation, c'est les tout derniers auditeurs, hein, Malonga qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Malonga.
Oui, bonjour Marcel.
On vous écoute rapidement, Malonga. Votre question par rapport à ces sujets sur les cancers chez l'enfant.
Oui, la question, c'est seulement, puisque nous sommes les villageois, hein, nous grandissons souvent là au village. Nous voyons beaucoup d'enfants qui souffrent beaucoup de plaies inguérissables. Alors, est-ce qu'on peut qualifier chaque plaie inguérissable C'est une cancer ou bien quoi?
Des plaies inguérissables à quel niveau? Malonga, des plaies inguérissables à quel niveau?
Bon, au niveau d'avoir que ça crée vraiment la chair, et puis ça, depuis là à l'intérieur, et c'est très inflammatoire, alors la peau aussi joue avec ça, il s'adapte avec ça, et puis il s'habitue avec ça. Et puis on dit que c'est un cancer. Mais on n'arrive pas à comprendre. Il y a des vieilles mamans, s'il vous plaît, et des vieux papas qui guérissent ça avec traditionnellement comme ça. Hein? On prend des feuilles, on chauffe ça, on fait glisser ça, et puis on ferme ça là-bas. Et puis ça arrive aussi à diminuer. Mais c'est inguérissable seulement. Alors, de quelle façon on peut qualifier vraiment que ça c'est une plaie causée par des cancers, ou que ça c'est une plaie qui n'est pas vraiment causée par des cancers? C'est quoi ça,
Antoine? Merci. Merci Malonga d'avoir appelé de Bandundouville, professeur Nguilo René. On a parlé de chez l'adulte, il y a peut-être l'échographie qui peut permettre de chercher à déterminer s'il y a un cancer. Et comment ça se passe chez l'enfant? Et puis il a dit par exemple pour le cas de la leucémie, comment ça se passe?
Oui, la leucémie, c'est une maladie du sang d'abord. Ok, c'est une maladie du sang et donc le diagnostic va se poser au niveau du sang. Hein. Lorsque nous faisons un examen de routine, nous constatons que ces enfants ont beaucoup de globules blancs. Dans la plupart des cas, il y a des cas qu'on appelle leucémie aleucémique où le nombre de globules blancs est normal. Mais le diagnostic se pose au niveau du sang, mais surtout au niveau de la moelle. Comme nous sommes... vous savez, les maladies du sang vont de pair avec l'oncologie. Donc, nous sommes de l'hémato-oncologie. Oui, et c'est toujours comme ça. Et donc, en ce qui concerne la leucémie, nous faisons ce qu'on appelle une ponction de la moelle. La moelle osseuse, c'est cette substance qui se trouve à l'intérieur des os. OK ? Parce que vous devez savoir que tous les éléments qui se trouvent dans le sang viennent de la moelle osseuse. Et donc, nous le savons, nous savons bien faire, les ponctions médulaires. Nous faisons une ponction de la moelle, nous étalons ce que nous recueillons là-bas sur une lame, nous colorons avec ce que nous savons faire, et là, nous constatons que l'enfant a des cellules anormales, qu'on appelle les blastes. Oui. Et le cancer du sang, c'est un très mauvais cancer. Parce que, comme c'est le sang, ça va non seulement envahir le sang, mais ça va envahir également d'autres organes, notamment les ganglions. Et donc, ce qu'on appelle les organes lymphoïdes. Ils vont envahir la rate, la personne va avoir une grosse rate, un gros foie, il va avoir des ganglions augmentés de volume, il va avoir même des infiltrations des blastes au niveau des os, il va avoir des douleurs osseuses, il va avoir même un syndrome méningite, comme un enfant qui a une méningite, etc., etc. Donc bref, c'est une maladie grave qui ne peut être diagnostiquée par un médecin et mieux un spécialiste.
Alors, les plaies, il y a des plaies inguérissables, comme on l'a dit, qui peuvent être liées à un cancer chez l'enfant.
Écoute, possible, c'est possible, mais je ne pense pas que ce qu'il dit là-bas soit lié au cancer.
Oui.
Je pense que c'est un simple mauvais traitement de la plaie. Et puis, il faut connaître la plaie.
Exactement.
Est-ce que ce sont des ulcères de Burley? Les ulcères de Burley, ça se traite d'une façon particulière. Il y a des plaies, comme chez les enfants SS, les enfants drépanocytaires, qui ont des plaies, surtout au niveau des malléoles, donc au niveau de la cheville. Eh ben, ces plaies-là ne guérissent pas, pour des raisons que nous pouvons expliquer, même ici, nous ne vont pas donner un cours.
Exactement.
Oui. Et donc, lorsqu'on a une plaie pareille, je pense qu'au lieu de mettre les feuilles des mamans, où on ajoute, ces feuilles-là ne sont pas propres. On y ajoute encore des microbes. Et lorsque vous ajoutez les microbes, naturellement, que ces plaies-là vont rester infectées et ne vont pas guérir.
Alors, le traitement, docteur Karim, rapidement, le traitement de manière générale, on va conclure par ça avec vous. Et puis, docteur Gil va commenter les traitements.
Alors, si je peux dire les traitements en un mot, les traitements doivent être spécialisés et pluridisciplinaires. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire sur le traitement. Alors, j'aimerais peut-être saisir l'opportunité pour rappeler les signes pour lesquels les parents doivent faire très attention. Au niveau des yeux, nous avons cité la tache blanche au niveau de l'œil, l'œil qui louche. au niveau, pour le leucémie par exemple, une fièvre qui n'en finit pas, des ganglions qui ne disparaissent pas, un ventre qui pousse, l'enfant qui est fatigué, ça fait un moment qu'il est malade, personne en fait, on n'arrive pas à le guérir, donc il faut faire très attention avec ces genres de choses. Les burkites, le professeur l'a déjà expliqué, avec cette joue qui gonfle, parfois les gens pensent que c'est un problème des dents. C'est un abcès dentaire, alors que non. Attention, ça peut être la forme de burkite. Aussi pour les néphroblastomes et les autres tumeurs abdominales. Attention, une boule dans le ventre chez un enfant est toujours une découverte sérieuse. Ce n'est jamais quelque chose négligé. Voilà un tout petit peu, grosso modo, s'il faut faire un peu le tour de cancer le plus fréquent chez l'enfant.
Voilà, docteur Karim Hassani, vous êtes pédiatre spécialisé dans la prise en charge des cancers, dont vous êtes oncopédiatre universitaire de Kinshasa. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci beaucoup.
Voilà, docteur Guillaume Ludoc, il faut davantage sensibiliser sur les cancers chez l'enfant.
Ah, je pense bien que ça, c'est le plus important. Et c'est ça la mission que nous sommes assignés. C'est pourquoi nous venons d'ailleurs parler à Radio Okapi. On ne vient pas pour le plaisir de citer l'honneur. Nous sommes venus parce que nous voulons que la population puisse savoir que le cancer existe bel et bien chez l'enfant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que il faut qu'on puisse le diagnostiquer à temps. Et donc, nous devons connaître les signes précoces tels que Karim l'a dit. Et le cancer n'est pas une maladie traitable à domicile ou dans un dispensaire ou dans un hôpital, disons, ordinaire. Le cancer doit être traité dans un centre spécialisé par une équipe pluridisciplinaire, tel qu'il a dit.
Professeur Anguille René, vous êtes pédiatre et merci à vous aussi d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement.
Merci bien, cher ami.